Quel est votre héros ou votre héroïne à vous ? Après tout, de héros, on en parle tant en ce moment, de celui ou celle qui fait preuve de valeur, d'un mérite supérieur, de ce besoin aussi qu'on a aujourd'hui plus que jamais d'incarner le courage, l'exemplarité, l'individu qui va jusqu'à se sacrifier pour la communauté. Quel est votre héros ou votre héroïne ? Réel ou légendaire ? Téméraire, ordinaire, de papier ou de pellicule, d'aujourd'hui ou d'hier ? À l'heure des hommages vibrants, je pense à ce grand théoricien du héros, qu'était Joseph Campbell. Dans ce livre fondateur qui s'appelle « Les héros sont éternels », cet anthropologue et mythologue américain dessine avec brio un schéma archétypal, un parcours qui ressemble à celui de tous les héros. L'appel, les épreuves, la réalisation, le retour et le gain. C'est en suivant ce modèle que nombre de scénaristes ont construit leur propre version d'un mythe universel du héros. De l'Odyssée d'Ulysse aux péripéties de Harry Potter, en passant par Star Wars, on n'est pas dépaysé. Et pourtant la structure, le schéma, la contrainte narrative, elle met de côté tous ces héros ou héroïnes qui ne reviennent pas, qui ne s'en sortent pas. Parce que ce qui fait la grandeur du héros, c'est aussi celles et ceux qui le portent quand il n'est plus là. C'est toujours en vrai. La communauté, le collectif qui l'élève et qui s'en souvient.
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Qu'est-ce qu'un héros pour mon invité d'aujourd'hui ? Lui qui, dans le prochain film de Daniel Roby, Dans la brume, incarne un homme face à la catastrophe, prêt à tout pour sauver les siens dans une ville de Paris noyée sous une brume épaisse, mystérieuse, toxique. Bonjour Romain Duris.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Avant toute chose, là c'est autant à l'acteur qu'au citoyen que je m'adresse. C'est quoi un héros pour vous ?
C'est une question intéressante. Un héros, j'ai l'impression, je sais pas, moi, ce que j'aime dans le héros, c'est quelqu'un de très normal qui va déclencher quelque chose en lui, qui va d'un coup l'amener sur la route du héros. Donc ça part d'un petit détail, peut-être d'aider quelqu'un dans la rue, ou c'est pas que de la bonne action, mais en tout cas ça nous enclenche dans une voie où on se sent, peut-être pas comme tous les jours, ça nous rend héroïque et là on peut aller loin. Parce que ça ouvre des portes et d'un coup, je pense que tout en restant quelqu'un de normal, on devient héroïque. Alors on peut avoir une journée comme ça, pour certains une vie, pour d'autres un film. Voilà, ça, c'est la réponse qui me vient, hein, je sais pas.
Ça vaut aussi pour les héros de cinéma, c'est ce que vous me dites.
Oui, moi dans les héros que j'ai fait dans le cinéma, ils sont un peu héros malgré eux, c'est un peu des anti-héros. Bon, quand on disparaît tôt, on trimballe ça dans les personnages de cinéma, on devient assez héroïque parce qu'on a disparu et que du coup, il y a une espèce de mythe qui se crée. Mais c'est pas forcément ça. Moi, sinon, les héros que je fais sont des gens peut-être parfois très banals, mais on fait un zoom sur eux et on s'y attache et du coup, ça en fait des héros.
Vous pensez à un personnage en particulier ?
Là, je pensais à la trilogie de Clapiche où j'avais vraiment, au départ, beaucoup de questions à Cédric en disant comment on va arriver à faire ce type qui est totalement normal, qui n'a pas un look, qu'un look assez improbable, très très simple, très très, il n'y a pas d'idée de look, je veux dire. Et comment on va pouvoir aimer le suivre pendant une heure et demie? Bon, je savais pas à l'époque qu'il allait avoir encore deux épisodes, mais ce Xavier là, qui est dans les bancs de la fac, comment on va s'y attacher? Comment on va avoir envie de le suivre dans un grand film comme ça, en Espagne? Et bon, après, bon, il y a des gens qui sont plus héroïques que d'autres à l'intérieur, mais c'est vrai que c'est une question qui se pose. Parce qu'on fait des personnages de cinéma, faut qu'il y ait du charisme, faut qu'on ait envie de les suivre.
Il y a ou il y avait des héros que vous rêviez d'incarner ?
Ce qui me vient à bout du Sauver des eaux, voilà, par exemple. Ouais, Michel Simon. Enfin, je sais pas. Moi, je suis toujours attiré, je vous dis, par des héros qui sont des gens dans la rue, pourquoi pas.
En tout cas, votre personnage de Dans la brume, il a quelque chose du grand héros. C'est un père de famille qui va tout faire pour sauver les siens au péril de sa vie. Comment est-ce qu'on approche un personnage comme celui-ci ?
Là, j'avais conscience qu'on partait dans un film fantastique, un film un peu... je sais, il y a tellement peu ce genre de film en France que je sais pas comment trouver les mots. Thriller, science-fiction, fantastique, je sais pas. D'un gars qui doit forcément s'en sortir et aider sa petite famille qui est réduite à sa femme et sa fille et pouvoir se sauver de cette brume qui tue.
Donc un rôle extrêmement physique.
C'est un rôle très physique. Et surtout, on s'est dit, enfin moi je me suis dit, mon rôle d'acteur là-dedans, c'est de ramener de l'émotion, de ramener de l'humanité, parce que forcément, dans ce genre de film où il va y avoir des effets spéciaux, des choses un peu grandioses, ne pas se perdre dans les codes ou les façons de faire qu'on connaît par cœur, mais se rapprocher d'un truc très réel et de se dire tous les jours comment je ferais moi ou comment ferait mon voisin, je veux dire, il n'y a pas que moi, hein, mais voilà, moi ça m'aidait à le rendre palpable, à le rendre réel, concret. Et voilà, donc c'était, je me disais en le préparant, bon, je vais surtout pas voir des films fantastiques plus que d'habitude, mais je vais me concentrer sur l'action réelle, des choix qu'on prend à chaque seconde.
Quitte à retenir sa respiration comme il le fait lui aussi.
Carrément, retenir sa respiration.
En apnée?
Oui, bien sûr, il y avait quelque chose de physique. Hein, il y avait quelque chose de physique.
Et combien de temps vous tenez en apnée, vous?
4 minutes.
Le grand bleu, non. C'est ça le héros que vous auriez dû interpréter.
Je sais pas, j'ai pas fait de calcul, mais...
Ben, je vous aurais bien demandé de nous le prouver sur le champ, mais le souci avec l'apnée, c'est que c'est pas très radiophonique romain. Ce qui est intéressant, c'est que dans le cas précis de ce film, outre le tournage a également été très physique. La brume a dû compliquer énormément de choses sur le plateau, non?
Voilà, parce qu'on a fait le choix d'avoir une brume vraie, et que ce soit pas tout en effets spéciaux. Donc c'était génial. Mais du coup, ça compliquait beaucoup les journées de tournage. On passait 3 fois plus de temps qu'une prise normale, parce que il faut recharger la brume, on se voit pas dans la brume, on s'entend différemment. Enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu pour toute l'équipe, quoi. C'est pas que pour les acteurs, pour toute la technique.
Quand vous avez lu le scénario la première fois, quelles sont les images qui vous sont venues immédiatement à l'esprit ?
Moi, j'avais une image qui m'a porté pendant toute la lecture du scénario. Je me suis dit, si ça, c'est réussi, ok, on peut gagner quelque chose. C'est une image des toits de Paris, comme ça, avec une brume qui reste à un niveau sous le 6e étage, on va dire. Elle reste bloquée là. Et voilà, une espèce de menace silencieuse, très belle, parce que mélangée à Paris, le vieux Paris, les toits gris, on n'a pas choisi la Défense, on a choisi le Paris authentique avec de l'âme. Donc je me suis dit que ça, voilà, c'était une belle image cinématographique.
Alors c'est assez intéressant de vous entendre dire ça, parce que vous avez joué Romain Duris dans nombre de films où Paris est reconstruit, réinventé, réinterprété. Je pense à ce Christophe Honoré dans Paris, de Cédric Clapiche, dans le film Paris, dans le film Peut-être aussi. Dans quelle mesure Paris, pour vous, c'est une ville de cinéma ?
C'est une ville de cinéma, elle est rare, elle est magique. Hein. On s'en plaint souvent, mais on est toujours content de revenir à Paris. Je sais pas vous, mais moi je suis toujours heureux. Il y a une âme dans Paris, il y a quelque chose de magique. Il y a une échelle qui est superbe. Je sais pas, moi les toits gris, toutes les petits détails qu'on voit pas forcément quand on est dans la pression du quotidien, mais il y a beaucoup de choses très belles architecturalement parlant. Donc c'est pas étonnant qu'elle soit filmée et refilmée et que dans les films parfois elle est sublimée, quoi. C'est pas une ville comme une autre, il y a vraiment quelque chose, quoi.
La brume, elle monte.
À quelle vitesse?
Quelques centimètres par heure.
On pourra pas rester ici indéfiniment.
Je pense qu'on a franchi le seuil. Ça ira pas mieux. Ça va ne faire qu'empirer.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Je sais pas, mais... Je me dis qu'il y a forcément un nombre de morts tolérables. Comme un seuil de mortalité. Qu'on peut pas dépasser. Au-delà duquel la société peut pas se relever. Tu te rends pas compte de comment c'est dehors? Je pense que les 2/3 de la population parisienne y sont passés d'un coup. Et si c'est pareil ailleurs, ça veut dire qu'aucun service public doit être en état de fonctionner.
Ça veut dire plus de police, plus de médecins, plus de techniciens pour remettre l'électricité.
Ça veut dire plus rien.
Ça veut dire plus de radio non plus, Romain Duris, dans la brume, où vous donnez la réplique à Olga Kurylenko. L'histoire, vous l'avez dit, c'est celle de cette brume qui envahit Paris, qui tue tout le monde sur son passage. Cette brume, on ne sait pas d'où elle vient. Et en fait, on a l'impression que la Terre se venge ici.
Ouais, on peut le prendre comme ça. En tout cas, il y a une espèce de séisme qui a libéré quelque chose et qui fait que ça devient invivable.
De quoi cette catastrophe est-elle le nom, pour vous ?
Je sais pas, il n'y a pas vraiment de cause. On n'a pas voulu qu'il y en ait, en tout cas, pour justement que ça soit un peu mystérieux.
On parlait d'apnée tout à l'heure, il est question de souffle et de respiration partout dans ce film. Qu'est-ce qui vous donne du mal à respirer, vous ?
Moi, je suis asthmatique, alors on peut s'étendre sur la question. Il y a beaucoup de choses qui me...
C'est-à-dire que ça peut être intéressant en tant qu'acteur. Asthmatique, c'est une contrainte, je suppose.
Ouais, c'est une contrainte. Je sais pas. Écoutez, moi personnellement, ça vient des arbres, alors que j'aime tellement la nature. Peut-être c'est une façon. Il me parle, quoi. Je sais pas. Et je reçois.
Certaines visions du futur aussi. Je me disais, comment vous le voyez-vous, l'avenir ? Ce sont des problématiques qui vous interpellent, qui vous interrogent, des problématiques écologiques qu'on entend.
Oui, enfin, on essaye à notre échelle. Enfin, je vais parler pour moi. J'essaye à mon échelle de faire des choix, de faire des actions. Après, est-ce que c'est suffisant? Je sais pas. Il y a tellement d'images alarmantes. Je sais pas. On doit tous se poser la question. Est-ce qu'on en fait assez, en tout cas? Je sais pas.
Ce film, il participe des images alarmantes. C'est une vision du futur qui nous
complètement,
propose.
Complètement. Et c'est pour ça que j'aime qu'il n'y ait pas de cause précise dans le film, pas dite, parce que ça serait trop simple. Du coup, il y a vraiment, on sort du film, je pense qu'on est, on est heureux de respirer, quoi.
Quelle proposition de cinéma est-ce que c'est pour vous, ce film? Je vous pose aussi la question, parce que le scénario réunit tous les ingrédients du blockbuster, comme ça, sur le papier à l'américaine. Et pourtant, c'est pas du tout le cas.
C'est ça, c'est un film de suspense qui a une dimension, comme on a dit, de film un peu héroïque, de film de catastrophe, comme on appelle ça, mais avec un petit côté film d'auteur aussi, film intimiste, avec des scènes de comédie qu'on peut avoir dans d'autres types de cinéma.
Européen ?
Européen, ouais, complètement européen. Très français. On n'est pas, c'est pas calibré, c'est pas un film catastrophe qui rentre dans des codes ou dans des, ouais, calibré. C'est un film catastrophe intime.
C'est ça la vraie différence que vous faites entre le cinéma européen et le cinéma américain? La question des codes dont on peut s'échapper?
Non, mais là, dans le type de film catastrophe, il y en a beaucoup parce que, en fait, on se perd et on est dans le genre et donc, du coup, on fait des raccourcis. Et donc, du coup, on oublie que le mec met ses chaussettes, quoi, et il regarde la brume par la fenêtre et vous voyez, enfin, des détails cons de la vie quotidienne. Mais moi, c'est ça qui me plaît à jouer, quoi. Même dans un film de... C'est pas parce qu'on fait un film catastrophe qu'il faut faire des raccourcis et passer direct à une scène qui envoie. Il y a aussi des petits détails. Dans le film, il y a un verre avec une brosse à dents qui se casse la gueule dans un évier. Bon, ça, c'est con, mais ça donne du concret, du réel.
Celle qui est entièrement dans le raccourci dans cette émission, peut-être la connaissez-vous, Romain, c'est La Culture. Et son actualité racoleuse, dragueuse et Time's Up. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 29 mars?
Du fait même que on est singulier et comparable à rien, hein, on est à la fois réel et indéfinissable.
Réel. Le philosophe français Clément Rosset s'était un mardi à Paris. Il avait 78 ans, lecteur de Schopenhauer, penseur malicieux, capable de relier Tintin et Kant. Il était l'auteur d'une œuvre du tragique, du réel et de la joie, marquée notamment par la publication de L'Invisible en 2012, de L'Antinature en 1973, ou du Réel et son double en 1976. Passeur à l'humour décapant, il venait d'achever un nouvel ouvrage, à paraître en avril, titré L'Endroit du Paradis. C'est tout ce qu'on lui souhaite.
Cher ami, vous nous avez dit l'autre jour que vous adoriez le théâtre.
J'adore le théâtre.
Levé de rideau sur le Festival d'Avignon, hier son directeur Olivier Py a révélé le programme d'une 72e édition axée sur la question très actuelle du genre, accompagnée par celle de l'enfance, de la famille et de l'individu. Parmi les événements les plus attendus, Thieste de Sénèque, mise en scène par Thomas Joly, en ouverture dans la grande cour d'honneur du Palais des Papes, Storywater du chorégraphe israélien Emmanuel Gatt ou encore un nouveau projet du prodige Julien Gosselin, bien 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 bien. Deux jours, c'est le temps qui leur a suffi pour que la première statue du monde, au monde, de David Bowie, du moins c'est comme ça qu'on la présente, inaugurée à Aylesbury dans le comté de Buckinghamshire en Angleterre, soit vandalisée. L'œuvre autofinancée grâce à une campagne sur les réseaux sociaux a été taguée d'inscriptions disant RIP DB, mais surtout Feed the Homeless First, nourrissez les sans-abri d'abord.
La liberté guidant le peuple, symbole grandiose de l'élan romantique et révolutionnaire dans le monde entier.
La liberté guidant le peuple, c'est bien, mais il n'y a pas que ça chez Delacroix. La preuve, le musée du Louvre inaugure aujourd'hui une grande rétrospective consacrée au maître romantique français. En association avec le Met de New York, l'institution parisienne accroche près de 180 toiles signées entre 1822 et la mort du peintre en 1863, notamment son Dante et Virgile aux Enfers, ou encore les scènes des massacres de Sio. Que c'est beau! Et Romain Duris, invité de Boomerang ce matin, ces dernières années ont été assez productives pour vous, Romain, entre ce film Dans la brume, celui de Serge Bozon, Madame Hyde qui sort en ce moment, entre le ouais. Ridley Scott et puis Fleuve Noir qui sortira en août, sans compter la série Vernon Subutex que vous évoquiez, adaptée de Virginie Despentes, que vous tournez en ce moment, qui est très attendue. Comment vous choisissez vos films, en vrai?
C'est vraiment alors un coup de cœur, hein. C'est pas du tout des calculs de ce qui pourrait être bien, ou ce qui serait bien, ou ce qui sera bien. C'est vraiment des coups de cœur avec des personnages, ou un metteur en scène, qui a une vision, ou une histoire.
Vous voulez dire par là que, en ce moment, vous tournez beaucoup, mais si ça se trouve, l'année prochaine, vous tournerez pas du tout?
Ah, complètement, ouais. Ah non, il n'y a pas du tout de... J'ai pas comme ça de rendez-vous précis ou d'une boulimie. C'est ça, ça, il y a des films, il y a des années où les films s'enchaînent plus que d'autres. Et puis quand ça s'enchaîne pas, je dessine, voilà.
Laissez faire le hasard. C'est intéressant parce que le cinéma est arrivé un petit peu par hasard dans votre vie.
Ouais.
Pourquoi vous avez fini par le choisir, le cinéma?
C'est son énergie, je pense, que j'ai choisi. C'est le fait d'être happé, sûrement de voyager aussi pendant les films, je veux dire pendant les tournages, pendant que ce soit géographiquement ou pas, juste intérieur. Mais il y a comme ça un truc qui est très, oui, happant et qui nous happe tellement que il faut savoir revenir. Mais donc, je veux dire, c'est facile de tomber complètement amoureux de cette profession parce qu'en plus, elle n'a pas de limite. Je veux dire, j'ai l'impression plus on avance. Plus, enfin, moi, je le vois comme ça, hein, mais l'âge sert aussi, le vécu sert, donc ça ne cesse de s'amplifier, et du coup, voilà, aujourd'hui, les moyens changent. Il y a du théâtre, il y a des séries télé, il y a des films, des petits budgets, des budgets plus importants. Enfin, j'ai l'impression que ça, il y en a un peu partout, donc.
Et ça, vous l'avez découvert par hasard, c'est-à-dire qu'avant Le Péril Jeune de Cédric Clapiche,
je dessinais, je faisais de la peinture, je pensais faire un métier dans l'art.
Et ça représentait quoi, le métier d'acteur?
Au départ, ça faisait peur. Moi, j'avais pas envie d'être exposé comme ça en public. J'étais assez sauvage, voire timide, quelque part quand même. Donc, enfin, je veux dire, avec l'intérieur restait très, très. J'étais pudique, donc ça me faisait peur comme ça d'être vu, observé, suivi. Et donc, du coup, je me disais non, moi je vais garder le dessin parce que c'est plus secret, c'est plus.
Il a changé votre vie, c'est Cédric Clapiche, somme toute.
Ouais, bien sûr. Enfin, c'est des rôles, hein. Bien sûr, c'est Cédric, c'est des rôles, c'est.
C'est-à-dire que là, moi, depuis le début de cette émission, j'ai envie de vous appeler Xavier.
Ah bon?
C'est le problème, évidemment. On a envie de vous demander d'ailleurs, parce que vous parlez, je vous ai entendu quand vous parliez de trilogie de Xavier là tout à l'heure. Il n'y a pas de suite à l'auberge espagnole, les poupées russes.
Cédric aimait bien l'idée du triptyque.
Hein. Nous, on aime bien l'idée d'une quatrième.
Je veux lui en parler. Il faut voir. Après, est-ce que ces personnages doivent être suivis avec l'âge? Je ne sais pas. Justement, parler de héros.
Mais ça en ferait un projet assez unique.
Ouais. Ah oui, moi je pense que la cinquantaine est filmogénique aussi. Hein. Il n'y a pas de souci. Bon, on va attendre encore quelques temps. Quoi.
Ça revient, hein, le dessin dans cette conversation, ça revient toujours. Vous n'avez jamais arrêté de dessiner?
Non. C'est par période, hein. Il y a des périodes plus productives.
En quoi c'est essentiel pour vous?
Parce que c'est une façon de me retrouver, de retrouver une solitude, de retrouver un calme, un apaisement, quelque chose qu'on peut pas m'enlever, me voler.
De respirer aussi?
Ouais, sûrement. Bien que là aussi, hein, il y a une forme d'énergie aussi dans le dessin qui, ou parfois proche de l'apnée aussi, hein. C'est pas l'image calme, tranquille, peace, hein, forcément le dessin. Il y a quelque chose aussi, il y a un truc aussi qui vibre, hein.
C'est intéressant parce que de respiration, il en est effectivement beaucoup question dans ce film, dans La Brume. La fille de votre personnage ne peut pas respirer l'air du dehors, elle souffre, comme beaucoup d'autres enfants d'ailleurs, d'une maladie qui l'oblige à vivre dans une bulle. Une bulle hyper connectée.
Ouais.
Cette maladie, c'est la métaphore de quelque chose, non, aujourd'hui?
Complètement, ouais, complètement.
Vous vous sentez dans une bulle, vous? Parfois? Hyper connecté?
Non, je vous dis, moi, je pars dans des bulles avec des personnages. Donc après, quand ils se terminent, je fais tout pour justement revenir avec tout le monde, quoi.
Mais c'est une vraie question. Comment on fait pour ne pas se couper des autres aujourd'hui, pour ne pas s'isoler, pour ne pas se replier sur soi-même?
C'est forcément d'essayer de se tourner vers les autres.
Et vous le faites par le cinéma, vous aussi?
Ça, c'est trop facile. De dire, moi je le fais par le cinéma.
Vous savez, moi je suis quand je ouvert à toutes sortes de réponses dans cette émission.
Oui, bien sûr qu'on le fait par le cinéma, mais je veux dire, ça coûte pas beaucoup. Je veux dire, c'est forcément, on donne quelque chose, c'est filmé. On va pas s'en plaindre. Donc, c'est forcément, les gens reçoivent, mais je veux dire, c'est pas très coûteux pour nous de balancer quelque chose, je veux dire, pour eux. C'est pas ça, je trouve. Non, il y a une générosité à avoir dans la vie de tous les jours, je pense, qui est plus généreuse, qui est plus active. Donc, c'est peut-être celle-ci qui est plus compliquée à avoir.
J'aurais accepté toutes sortes de réponses, même la musique. Romain Duris, une musique où il est question de brume, tiens, The Kinks, Misty Water ce matin. Vous êtes sur France Inter avec Romain Duris, vous écoutez Boomerang et on commence à y voir plus clair. By the town of Straight and Narrow, there's a dark and misty clay. Everything is hazy, so the people are afraid. All except Maria's daughters, who believe in misty ways. Everything is lovely,
misty morning glade. I like misty water. I like fog and haze. And Maria and her daughters, they like misty water. I like misty water. I like fog and haze. And Maria and her daughters, take a sip of misty water.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
C'est vrai que dans la brume du studio, c'est vraiment difficile de distinguer quoi que ce soit, mais en plissant les yeux, on parvient néanmoins à percevoir la lueur brune, presque jaune d'un regard, serait-ce celui d'un vampire, d'un loup-garou, ou de quelque autre créature de conte ou de légende, qui sait, de mythologie. Regardez-moi ce petit nuage de boucles brunes qui s'épaissit peu à peu, qui donne forme à sa crinière de cumulonimbus, enfin un sourire, hein, avant tout, carnassier, ironique, gourmand, qui vous glace, qui vous prend par surprise comme un courant d'air. Il a un gilet noir et un t-shirt vert. Romain Duris, invité de Boomerang ce matin pour Dans la brume et son rôle de père héroïque, on en parlait tout à l'heure, de cette dimension très physique, de ce rôle qui a aussi quelque chose à voir avec votre approche du métier de comédien. Romain Duris, vous n'avez jamais pris de cours de théâtre, je crois, tout est venu de l'instinct. Comment vous avez fait l'apprentissage de ce métier?
Il s'est fait avec les années, c'est-à-dire qu'il s'est fait avec des rencontres de metteurs en scène qui étaient vibrants. Je veux dire, que ce soit Cédric Clapiche, Tony Gatliff, avec qui j'ai voyagé pas mal, Christophe Honoré, Patrice Chéreau, enfin Jacques Audiard. Forcément, c'était des maîtres et ils avaient une façon de diriger différente pour chacun, mais qui m'ont vachement appris, quoi, sur le. Ouais.
Et en regardant aussi les autres comédiens, on parlait de cette ouverture aux autres tout à l'heure.
Ça, c'est moins évident, j'ai l'impression. J'ai l'impression de découvrir plus le métier quand j'entends parler des metteurs en scène, ouais.
Qu'est-ce que vous admirez le plus chez un comédien, vous?
C'est sûrement dans quelque chose qui ne se voit pas. Dans son mystère, dans le charisme. Ouais. Comment il s'empare d'un rôle aussi. Comment il en fait un héros, ce dont on parlait tout à l'heure.
Et vous avez l'impression, vous, petit à petit, d'avoir le sentiment de toujours aborder un rôle de la même façon, d'avoir développé une méthode de travail?
Non. Pas franchement. Je n'en cherche pas forcément une. J'ai conscience de me créer à chaque fois une espèce de bulle avec des livres, des films, des discussions, un thème, voilà, dans lequel je m'enferme pendant un laps de temps. Mais arrive le jour de tournage où là, je peux tout lâcher, je peux improviser. Après, ça dépend vraiment des films ou des rôles. Mais il y a cette bulle, voilà, que je crée en amont, qui est quand même très précieuse. Mais après, j'aime bien le non-forme. J'aime bien que ça n'ait pas de forme. Puis l'évolution comme ça du métier, on la sent d'un coup. Deux ans après, on se dit tiens, là j'ai un peu évolué. Ouais, je l'aborde différemment qu'avant. Mais est-ce que c'est bien? Vous voyez, moi je cherche toujours l'état un peu d'abandon des premiers jours ou peut-être du premier film où d'un coup. Il y a des choses qui s'échappent de nous, on n'a pas de savoir-faire, et puis ça crée une espèce de grâce.
Mais la toute première chose que vous faites quand vous abordez un personnage?
Je vous dis, je cherche des matériaux, que ce soit des livres, des films, des articles avec Internet, des choses qui me rapprochent et qui m'éloignent de moi, qui m'approchent des personnages et qui m'éloignent de moi.
Et quand est-ce que vous savez qu'il est là, que vous l'avez en vous, que vous l'avez trouvé?
Ça peut être assez terrifiant. Juste avant de tourner, je pense que c'est vraiment en première action. Où là, il y a quelque chose qui se dessine. Ça fait partie, l'enregistrement de la caméra fait partie de la concrétisation du personnage, je veux dire.
Là, par exemple, je crois que le tournage de Vernon Subutex.
Ou du public série, pour le théâtre, hein, pardon.
Des romans de Virginie Despentes vient de commencer. Il est où, là, Vernon, en ce moment? Vous l'avez avec vous?
Là, je l'ai avec moi. Je tourne pas aujourd'hui, donc je l'ai mis en pause.
Et c'est le mettre en pause, quand même.
Je l'ai mis en pause, ouais. C'est un peu compliqué. Parce que c'est un peu compliqué de partir ailleurs. Mais là, c'est bien, vous êtes énergique. Donc ça va, ça me...
Parce qu'il n'est pas dans la même énergie, Vernon Subutex.
Non, il est cool. Il est cool, mais on en fait un actif quand même. Hein. Moi, je précise, parce que c'est vrai que dans le livre, il y a une grande beauté comme ça, parfois très silencieuse. Mais malheureusement, quand on transcrit ça en film ou en série, il faut quand même être mordant. Et le Vernon est mordant dans son intériorité, et moi j'essaie de le rendre quand même à l'image.
C'est pour Virginie Despentes que vous avez dit oui ?
Forcément, oui. C'est forcément pour Virginie Despentes. Au départ, je ne savais pas la forme et la tête que ça aurait, une série télé comme ça, d'un livre si bien écrit, avec beaucoup de descriptions qui sont difficilement filmables. On se demande comment ça peut être possible. Oui, au départ, c'est le monde de Virginie Despentes.
Vous avez accepté, Romain Duris, pour conclure cette émission, de nous lire un extrait
de
Vernon Subutex. Quel passage ?
C'est un passage qui fait partie du tome 1, qui est... Moi, un moment que je trouve très beau, où Vernon se retrouve à la rue.
On vous écoute.
Assis à hauteur des sacs et des chaussures, Vernon doit lever la tête pour regarder les visages. Il est saoulé de voir défiler des culs. Sa dandine s'en pose sur son bout de trottoir. Avant, il faisait attention à regarder les SDF dans les yeux, en passant, pour dire « je te vois, tu es là, je te calcule ». Ce qu'il ignorait, c'est qu'une fois au sol, on s'en contre-tape que les passants vous regardent. Est-ce qu'il porte la main à la poche? C'est la seule question intéressante. L'attention, ni ça se mange, ni ça se réchauffe, ils peuvent se la garder. Ça lui a pris 3 jours avant de se résoudre à s'asseoir et tendre la main. Il a passé la première journée enterré dans le métro. Il faisait les lignes de bout en bout, il les a toutes faites. Il a somnolé, il a lu les journaux que les gens abandonnaient en sortant. Il a regardé passer les quais, il a pris des correspondances, il a écouté les musiciens. Il se choisissait une station au hasard, s'y installait. Il laissait passer quelques rames, puis il remontait jusqu'au terminus. Il donnait le change. Pourtant, personne ne s'occupait de ce qu'il faisait. Il est remonté à la surface quand le métro a fermé ses grilles. Il était du côté de Passy. Il a passé sa première nuit dehors, à l'abri d'un distributeur automatique. C'était plus insolite qu'autre chose de se voir chercher des cartons dans la nuit pour s'isoler du froid du sol. Il avait la sensation étrange de jouer un rôle. Il ne croyait pas tout à fait à ce qui se passait. Il a profité de ce qu'un ivrogne du 16e titubait devant le crash tune pour se faufiler derrière lui. Il a fait semblant d'attendre son tour, désinvolte et digne, avec ses 3 cartons sous le bras. Puis il s'est installé, sur le sol, la tête calée sur son sac, attendant que le jour se lève et que le métro ouvre. Une couverture n'aurait pas été de trop. Il n'est pas encore bien équipé. Le lendemain, à 5h, il attendait l'ouverture du métro. Il a piqué un somme sur la ligne 8. Il est descendu à République. Il s'obstinait à simuler le mec qui va quelque part. Il est resté assis, quelques heures ou quelques minutes, le temps avait perdu de son évidence, sur les bancs inconfortables, le regard rivé sur le mur d'en face, comme un monsieur préoccupé par ses petites affaires quotidiennes.
Les mots de Virginie Despentes, lus par Romain Duris, qui incarnera bientôt Vernon Subutex. Merci tellement, Romain, d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que Dans la brume, de Daniel Roby, avec Olga Kurylenko et la jeune Fantine Arduin, un film au réalisme glaçant, sort mercredi, qu'il faudra encore attendre quelques bons mois avant de pouvoir découvrir les premiers épisodes de Vernon, mais qu'on les attend avec impatience tout de suite, les médias. Sonia De Villaret, son instant M, juste après ça.
Oh, comme ça cognait, Phébus à bloc, on s'abritait dans la forêt. 1000 sentiers nous parcouraient, 1000 odyssées à notre porte, les cohortes d'ennui filaient, on le savait, elle reviendrait. Nous avions toute l'attitude et toute la vie. Toute l'attitude et toute la vie, aucun engagement d'aucune sorte. Et pour seule devise, peu importe. Oh, ça le voyait comme anguille dans les ruisseaux qui serpentaient, mains des garçons, cheveux des filles. Et on se cherchait dans les bois, certains se trouveraient, d'autres pas, mais sans moquer, qui oserait, même aujourd'hui, qui oserait. Nous avions toute l'attitude et toute la vie. Toute l'attitude et toute la vie. Aucun engagement d'aucune sorte. Et pour seule devise, peu importe. Mais depuis, ne meurt jamais, toute l'eau stagne dans le puits, on revient seul dans la forêt, comme hier, se mettre à l'abri, même si le soleil a pâli, voilé par tous les jours d'après, on revient seul dans la forêt. Nous avions toute l'attitude et toute la vie. L'attitude et toute la vie, aucun engagement d'aucune sorte. Nous avions toute l'attitude et toute la vie. Toute l'attitude et toute la vie, aucun engagement d'aucune sorte. Et pour seule devise, peu importe. Mais
Inter, toute l'attitude, Dominique. Ah, tout de suite, Sonia De Villers.
Que c'était joli.
N'est-ce pas?
Très joli. Salut Augustin, à demain.